BPM. Élections législatives 2022.
Et bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin et le second tour le dimanche 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les 10 candidats pour la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons Delphine Blitman, candidate donc de la 5e circonscription de l'Eure pour lutte ouvrière, accompagnée d'Anne-Marie Collin, la suppléante sur la liste. Alors Delphine Blitman et Anne-Marie Collin, bonjour.
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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir dans nos studios. Alors Delphine Blitman, vous avez 43 ans et vous êtes professeure de philosophie dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Et vous êtes donc candidate sur la 5e circonscription de l'Eure. Et votre suppléante se nomme Anne-Marie Collin. On va s'intéresser un petit peu à vous, Anne-Marie Collin. Qui êtes-vous? Présentez-nous un petit peu pour nos auditeurs.
Oui, alors moi j'ai 73 ans et je suis professeure de collège retraitée. J'ai travaillé dans un collège de Vernon pendant les 20 dernières années d'exercice. Voilà.
Et les Verdonnais vous ont retrouvé il y a 2 ans à la tête de la liste pour les élections municipales.
Voilà.
Durant cette émission, nous allons passer en revue vos projets sur la circonscription, vos propositions et priorités pour les 5 prochaines années. Alors tout d'abord, première question qui peut se poser à vous deux du coup, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter?
Avec nos camarades, on pense que c'est important de prendre la parole dans ces élections pour faire entendre les intérêts du monde du travail, ce qu'en fait les autres candidats ne vont pas faire. Donc on trouvait ça important dans la lignée de ce qu'a fait entendre Nathalie Arthaud aux élections présidentielles, d'être présent dans toutes les circonscriptions. Voilà, on sera dans toutes les circonscriptions de la métropole et à La Réunion.
Même constat pour vous, Anne-Marie Collin?
Oui, tout à fait. Oui, il faut vraiment que les travailleurs puissent se faire entendre. Les élections, c'est une occasion d'affirmer que les travailleurs sont bien là et qu'ils ont des intérêts à défendre.
Cette implication au sein de lutte ouvrière, c'est quelque chose qui remonte pour vous, Delphine?
Ça commence, oui, à faire une vingtaine d'années. Mais quand on voit l'évolution de la société, quand on voit à quel point la crise économique s'aggrave, on en reparlera peut-être, la guerre en Ukraine, quand on voit l'état du monde, je crois que ça ne peut que nous conforter, Anne-Marie et moi, dans notre envie de changer le monde.
Alors passons à un autre sujet, puisqu'il y a de cela déjà quelques semaines, les Français sont allés voter lors des dernières élections présidentielles. Avant de parler des résultats du second tour, on va quand même un petit peu revenir sur Nathalie Arthaud, pardon, pour lutte ouvrière. Une petite pensée sur les résultats de Nathalie Arthaud lors du premier tour.
Écoutez, on a été fiers de faire cette campagne. Ça nous a permis d'avoir des milliers de discussions à la porte des entreprises, avec les collègues, avec la famille, en porte-à-porte dans les quartiers populaires. Donc on a été en campagne en fait toute l'année et ça a été très riche pour discuter de la situation, des problèmes qu'on rencontre et de ce qu'on peut faire, comment on peut s'unir pour réagir, se défendre face à toutes les attaques qu'on subit, face à la dégradation de notre vie. Donc ça a été une campagne très riche et l'occasion en fait de renforcer nos réseaux militants, nos réseaux de sympathisants, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça a été une bonne campagne et on était fiers de la manière dont Nathalie Arthaud a porté nos idées dans la campagne.
Alors passons du coup maintenant au résultat du second tour, puisque 58,55% des votants lors de ce second tour ont voté pour Emmanuel Macron contre 41,45% pour Marine Le Pen. Qu'avez-vous pensé, vous, de ces résultats? J'imagine que c'est pas quelque chose qui vous satisfaisait de voir un second tour comme celui-là.
C'est sûr, mais c'était pas très surprenant non plus, parce qu'au deuxième tour, on est piégé en fait. Tout est fait pour que les candidats qui sont sélectionnés au deuxième tour soient extrêmement éloignés de ce qui peut représenter les intérêts de la population. Donc c'était la peste et le choléra. Nous, on a voté blanc. Voilà, on n'avait pas envie de choisir entre la peste et le choléra. Et il n'y avait pas beaucoup d'enjeux pour les travailleurs. On sait qu'au deuxième tour, ça ne peut être qu'un ennemi du monde du travail qui est élu. Je veux dire, la grande bourgeoisie qui dirige la société ne va pas laisser son État, sa maison, son gouvernement aux mains de politiciens qui ne défendraient pas ses intérêts. Donc les jeux sont faits. Quel que soit le politicien, la politicienne qui peut être élue au deuxième tour, on sait que ce sera un ennemi, on sait que ce sera quelqu'un qui dirigera les affaires pour les intérêts de la plus grande bourgeoisie, du grand patronat. Donc les jeux sont faits. Pour nous, ce qui compte, c'est le premier tour. Là où on peut justement affirmer nos idées, se faire entendre, ne pas laisser la parole qu'aux candidats qui se situent du côté du patronat, justement. Donc c'était pour nous le premier tour qui était important.
Et puis il y avait au niveau local aussi, lors du second tour, hein, sur la cinquième circonscription du département, un résultat un peu plus différent de ce qui s'est passé. Marine Le Pen est ressortie en tête avec 51,8% des votants contre 48,2% pour Emmanuel Macron. J'imagine que votre pensée reste à peu près la même que par rapport au niveau national.
Oui, et puis on a beaucoup discuté avec des gens qu'on a rencontrés ou qu'on avait autour de nous qui se demandaient s'il fallait pas voter Marine Le Pen pour faire obstacle à Macron. Donc on a eu énormément de discussions sur ce terrain-là où on a essayé de convaincre que le fait de voter Marine Le Pen, c'était se tirer une balle dans le pied. Quand on appartient aux couches populaires, c'est une millionnaire, fille de grand patron, les problèmes des travailleurs, elle en a rien à faire. Donc c'est voter pour une ennemie, et faire ça, c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est aussi voter pour des idées qui vont encore plus loin dans la division des gens, avec la xénophobie, le racisme, ça nous divise, et c'est un poison, ces idées-là. Donc on a vraiment essayé de convaincre tous les gens qu'on pouvait... qu'on rencontrait comme ça ou qu'on connaissait, que c'était vraiment un geste à ne pas faire. Alors, pas voter Macron non plus, on est d'accord, mais pas voter Marine Le Pen non plus. Donc, ça a été un enjeu pour nous, voilà, d'essayer de se faire comprendre là-dessus, et que l'opposition à Macron ne peut pas passer par voter pour quelqu'un qui est tout autant notre ennemi que Macron lui-même.
Pour vous, le chemin de pensée, du coup, de nombreuses personnes, ça a été de voter plus contre Macron que pour Marine Le Pen ?
Je crois. En tout cas, on a beaucoup entendu ça, des gens que Macron a écœurés, et à juste titre, qui sont en colère, mais voilà, qui cherchent encore dans leur colère une solution dans les élections, quelque chose qui serait moins pire. On a beaucoup entendu Marine Le Pen, on ne l'a pas essayé, ça peut pas être pire que Macron, et on avait à cœur d'expliquer que si, ce serait pire. Et d'ailleurs, quel que soit l'élu, je pense que ça va être pire, nous pensons que ça va être pire. Puisque ce qui décide de ce qui se passe, c'est la situation économique qui s'aggrave, c'est toutes les tensions qu'il y a au niveau international. Et donc, en fait, la personne du président élu ne joue pas beaucoup là-dedans. Donc, on expliquait que si Marine Le Pen, ce serait pire qu'Emmanuel Macron, et que de toute façon, le gouvernement là qui va sortir, ce sera pire que ce qu'on a connu. Ils vont continuer à nous attaquer. Et donc, voilà, toutes ces discussions-là étaient malgré tout intéressantes. Et heureusement qu'on a convaincu quand même... un certain nombre de personnes de s'abstenir ou de voter blanc plutôt que de choisir entre la peste et le choléra.
Il y a un sujet qui vient forcément quand nous parlons d'élections, c'est celui de l'abstentionnisme. N'avez-vous pas peur à nouveau que ce taux d'abstention soit élevé de nouveau les 12 et 19 juin ?
Il risque de l'être, oui. Vu les problèmes que connaissent les gens en ce moment, les élections pour beaucoup apparaissent lointaines, et surtout... l'expérience, disons, des 20-30 dernières années où les gouvernements se succèdent de gauche, de droite, avec Emmanuel Macron, ni gauche ni droite, et on constate que la vie va de plus en plus mal, ça fait que beaucoup de gens n'y croient plus, se détournent des élections et n'ont plus envie d'aller voter. Après, qui pensent que ça change rien, ils ont pas tort, le vote ne change rien. Les élections ne changent rien à notre vie et n'ont jamais rien changé à notre vie. Donc là-dessus, on veut pas défendre le contraire. Simplement, nous, on pense que il faudra se battre, et que déjà prendre la parole et défendre nos intérêts et affirmer quels pourraient être nos objectifs de lutte, c'est mieux que de se taire. Voilà, on pense que c'est pas en se taisant qu'on est dans la meilleure position pour ensuite se défendre collectivement tous ensemble. Donc c'est le sens de notre candidature. On veut proposer aux travailleurs, aux retraités, aux chômeurs, aux gens en colère, de dire leur colère et de le dire en affirmant leurs intérêts. Et on pense que ça, c'est important, et que c'est mieux de prendre la parole que de se taire.
Passons à un débat important, celui qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est celui autour de la réforme de la retraite à 65 ans. Que pensez-vous ? Quelle est votre position au niveau de cette réforme ?
Mais écoutez, ça nous révolte. On fait travailler les gens de plus en plus vieux, ou en réalité, on les met en cessation d'activité, au chômage... quand ils ne sont plus en état d'être exploités suffisamment au goût des patrons, parce que c'est ça la réalité. Hein. Dans plein de boulots, les gens ne vont pas travailler jusqu'à 65 ans, ils sont mis sur le carreau bien avant, et ils vont du coup vivoter au chômage et avoir des retraites de misère diminuées par ces années de chômage. Donc c'est révoltant qu'on veuille encore faire payer le monde du travail par une baisse en fait des pensions de retraite, c'est ça que ça va vouloir dire, et par un allongement de la durée de cotisation, alors qu'il y a des millions de chômeurs, qu'il faudrait embaucher les jeunes, répartir le travail. Et nous, bien sûr, on s'oppose à tout ça. On est pour un retour à 37 ans et demi pour tous, la retraite à 60 ans. Et il n'y a, enfin voilà, il n'y a pas de raison que ce soit les travailleurs qui payent encore, en fait, quoi, la crise économique, le fait que c'est plus dur. On nous dit que les caisses de retraite sont vides, c'est une blague. Il y a 160 milliards de profits l'année dernière en pleine épidémie Covid uniquement par les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc je crois que les caisses sont pleines. Et donc on demande toujours aux travailleurs de payer, nous ça nous choque et on refuse ça.
Autre sujet qui revient beaucoup et qui touche une grande partie des Français, c'est celui du pouvoir d'achat qui ne fait que baisser ces derniers temps. J'imagine qu'il y a des solutions, du travail à faire autour de tout cela pour réussir à l'améliorer et aider ces Français en difficulté.
Bah, c'est le problème numéro un. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant l'augmentation des prix. C'est pas 5% comme dit l'INSEE, on l'a tous constaté. Hein. Rien que l'essence, c'est pas 5%. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette augmentation des prix, ce n'est ni une fatalité, ni une épidémie qui ne viendrait d'on ne sait où. C'est le produit de la spéculation des plus gros groupes capitalistes qui s'en mettent plein les poches. Enfin, je veux dire, Total, en ce moment, entre autres, s'en met plein les poches. Donc ça ne vient pas de nulle part. Il y a les plus gros groupes capitalistes, ils décident de profiter de la situation en Ukraine, de la situation économique générale qui se dégrade, pour augmenter les prix, spéculer et rendre la vie infernale à des millions et des millions et des millions de gens. Donc c'est le problème numéro un, et bien sûr qu'il va falloir se défendre face à ça. Et si je peux me permettre de parler de voilà des principales revendications qu'on met en avant dans ces élections, comme Nathalie Arthaud l'a fait au présidentiel, c'est une double idée. L'idée d'abord qu'il faudrait que tous les salaires, allocations, pensions de retraite soient au minimum de 2000 euros net. Voilà, parce que quand on demande aux gens combien il nous faut pour vivre, il n'y a pas une personne qui dit moins de 2000 euros. Donc nous, on pense qu'il faudrait déjà affirmer que c'est ce dont on a besoin pour vivre, et pas pour vivre dans le luxe, hein, juste pour s'en sortir à la fin du mois. Donc 2000 euros net pour tous. Et puis la deuxième revendication importante qui est liée à celle-ci, c'est d'instaurer une indexation des salaires, des retraites, des allocations sur les prix. Ça veut dire que les travailleurs s'organisent, les consommateurs, la population, pour aller contrôler les prix au jour le jour ou à la semaine. Regarder l'augmentation réelle des prix dans les supermarchés, à la pompe, à essence, et imposer que les salaires, les retraites, les allocations augmentent au fur et à mesure en proportion de l'augmentation des prix. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires, des pensions de retraite. Et ben, ce contrôle-là que la population pourrait exercer pour imposer que les salaires, les pensions ne soient pas toujours en retard sur les prix, pour nous, c'est vital. Tant qu'on n'imposera pas ça, on sera toujours victime des patrons qui lâcheront peut-être s'ils sont obligés quelques augmentations, mais qui se rattraperont en augmentant les prix juste après. Donc notre seule protection, c'est d'imposer que les salaires, les pensions, les allocations suivent automatiquement et sous notre contrôle, pas ce que l'INSEE raconte, mais sous notre contrôle, l'augmentation des prix. Et ça suppose, bah oui, d'imposer un contrôle de la collectivité, de la population, des couches populaires sur ce qui se passe dans la société. Bah, on pense que ce contrôle-là, il est nécessaire, il est vital pour qu'on s'en sorte. Et ça, c'est une des choses qu'on met en avant dans ces élections, parce qu'encore une fois, le vote n'a jamais rien changé à la vie des travailleurs, mais il permet de préparer les consciences, il permet de dire des choses, il permet d'avancer des idées. Le jour où on se battra, parce qu'on reste quand même persuadés, nous, qu'il va y avoir des luttes collectives, qu'on ne va pas supporter éternellement de vivre comme des misérables, alors qu'on sait que l'argent, il y en a, comme je le disais tout à l'heure, hein, les milliards de profits existent. Il y aura des luttes collectives. Bah, un des objectifs que ces luttes collectives devront se donner si on veut s'en sortir, c'est cette échelle mobile des salaires, des pensions et des retraites. Et on pense que c'est la seule protection. Donc nous, c'est aussi cette mesure-là qu'on va essayer de populariser pendant les élections et de mettre en avant comme un des objectifs nécessaires de nos luttes à venir.
À travers ce que vous venez de dire, et justement vous en parliez tout à l'heure, mais la présence de Lutte Ouvrière sur ces élections législatives, c'est véritablement de faire entendre le camp des travailleurs, chose qui n'est vraiment pas suffisante pour vous, même si on a vu plusieurs partis politiques de gauche se réunir derrière NUPES, mais pas vous, Lutte Ouvrière. Ce qu'ils proposaient ne va pas assez loin pour vous, pour les travailleurs?
Si vous voulez, il suffit pas d'être de gauche pour d'être dans le camp des travailleurs. La gauche, on l'a vu au pouvoir depuis Mitterrand. Il y a eu 3 gouvernements de gauche. Jospin, Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose que la droite Empire. Ils se sont déconsidérés. Ça a fait monter l'extrême droite. Donc cette gauche-là qui gouverne, en fait, pour les patrons et qui essaye d'endormir les travailleurs, elle rend service au grand patronat et permet d'imposer des choses que parfois la droite n'arrivait pas à imposer. Donc cette gauche-là, c'est l'ennemi des travailleurs. C'est pas notre camp. Encore une fois, c'est pas la même chose d'être de gauche et d'être dans le camp des travailleurs. Parce que dans l'échiquier politique, hein, les politiciens de la bourgeoisie, ils vont de Mélenchon à Marine Le Pen. La bourgeoisie, elle a plein d'options politiques en fonction de la situation pour tromper les gens, pour calmer le jeu, pour proposer des changements apparents. Voilà, c'est le rôle de tous ces politiciens-là de gérer la situation pour qu'au fond, les intérêts de ceux qui profitent de la société, de ceux qui ont réellement le pouvoir, les capitalistes, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas les politiciens. Ceux qui possèdent les entreprises, qui ont les capitaux, ceux qui prennent les décisions économiques qui influent sur nos vies. Bah, ces gens-là, voilà, ils ont tout un personnel politique avec différentes options qui sont pas équivalentes. Hein. Je mets pas tout sur le même plan, mais au fond, toutes ces options-là servent à gérer la situation, mais sans remettre en cause la domination des capitalistes sur la société. Bah, être dans le camp des travailleurs, pour nous, c'est remettre en cause cette domination des capitalistes. C'est rompre, proposer de rompre avec ce système où les capitalistes ont droit de vie et de mort sur nous, décident de tout, de notre salaire, de notre vie, d'à quelle heure on se lève, de combien est l'essence, de ce qu'on a le droit de faire. Voilà, c'est eux qui décident de tout. Nous, on remet ça en cause. On pense que le monde du travail n'a pas les mêmes intérêts et ne peut pas avoir les mêmes intérêts que la grande bourgeoisie. Qu'on ne peut pas concilier ces intérêts-là, qu'on ne peut pas faire un compromis entre les deux. Enfin, n'importe quel travailleur sait que le patron ne fait jamais de compromis. Jamais, jamais, jamais. Quand un rapport de force les oblige à lâcher quelque chose pour les travailleurs, il essaye de se rattraper par un autre bout. Donc cette illusion que les partis de gauche diffusent, qu'il y aurait des compromis possibles avec la grande bourgeoisie, qu'on pourrait lui imposer des limites, qu'on pourrait mettre des lois qui rendraient le capitalisme moins sauvage, pour nous, c'est une illusion. Et l'expérience des gouvernements de gauche l'a montré suffisamment, selon nous. Donc, encore une fois, le camp des travailleurs, c'est autre chose. C'est dire que les intérêts de l'immense majorité des gens, eh ben, ce sont pas les mêmes que les intérêts de ceux qui dominent la société. Et nous, ce qu'on veut faire entendre, c'est les intérêts de l'immense majorité de la population. Le droit à un travail ou à une pension de retraite ou à une allocation qui permette de vivre, 2000 euros net minimum. Voilà, un contrôle sur les décisions de la société pour qu'on arrête d'aller dans le mur à tous les points de vue, hein, du point de vue social, mais de tous les points de vue, du point de vue écologique, voilà. Donc, il y a des camps dans la société et cette conscience-là, on va essayer de la défendre, de la diffuser pendant ces élections et c'est pour ça qu'on pense que c'est important qu'il y ait des candidats de Lutte Ouvrière partout, ne serait-ce que pour marquer ça, que non, la gauche du capitalisme, c'est pas le camp des travailleurs.
Avant de conclure cette émission, il nous reste à peu près 1 minute 30, un peu moins maintenant. On lit également dans votre profession de foi avec le contexte de guerre en Ukraine, cette peur grandissante en Europe de nouveaux conflits de ce genre. Voter pour vous, ce serait en quelque sorte une manière d'éviter tout cela?
Bien sûr que non. Encore une fois, le vote peut déjà pas changer les choses pour notre pouvoir d'achat, il peut pas éviter les guerres. Mais c'est un vote important pour dénoncer le système qui nous mène à ces guerres. Vous avez raison d'en parler, c'est une des choses qui nous préoccupe évidemment tous en ce moment. Ce qu'on voit, c'est que la loi du profit sur toute la planète, la loi du capitalisme, elle entraîne une concurrence effrénée entre les plus gros groupes, les multinationales et les États qui défendent leurs multinationales entre eux. Cette concurrence-là, elle dégénère en une guerre militaire, en une guerre tout court. Hein, la guerre économique devient une guerre tout court, sans arrêt. C'est vrai aux quatre coins du monde, depuis toujours. En fait, la guerre n'a jamais cessé. Hein, parlons-en aux Syriens, aux Libyens, aux Maliens, etc. La guerre économique qui se traduit en guerre militaire n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, c'est la même chose en Ukraine. Voilà, c'est l'OTAN et Poutine qui se battent pour des zones d'influence, pour l'accès aux matières premières. Voilà. Et c'est les populations qui payent. C'est un drame humain absolu. Et oui, nous ne sommes pas préservés ici aussi de nouvelles guerres. Alors face à ça, il faut que les travailleurs se préparent à prendre la direction de la société, à dégager la classe capitaliste qui dirige le monde si mal. Et pour dire ça, on peut le faire en votant lutte ouvrière, et on pense que pour préparer l'avenir, ce vote-là, il est fondamental.
Delphine Blitman et Anne-Marie Collin, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et à 18h et à retrouver en podcast sur bpmlaradio.com. Et puis à 8h30, François Bonnet pour Reconquête répondra à nos questions. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.